C'est toujours très étonnant qu'après 3 ans et demi de débats et de réflexions nourris par 2 rapports, une conférence citoyenne, on en soit là aujourd'hui. Mais à la fois, je reconnais que à l'accueil des patients dans mon service, beaucoup de patients ne connaissent pas cette loi forcément. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être informés. On a l'impression que c'est en parlant, que ça suffit de parler d'une loi pour que les mentalités évoluent, mais je pense que c'est beaucoup par la formation des soignants, par la prise de conscience de certains proches, par la diffusion d'informations que les pratiques peuvent changer.
Ce manque de connaissance de cette loi est lié notamment à un certain refus, à une peur des Français vis-à-vis de la mort.
La mort effraie, la mort fait peur, la mort on n'a pas envie d'en parler. Mais je pense que si on parle de cette loi, tout en restant très vigilant, permet aussi de rassurer. Moi, plus je la lis, cette loi, plus je la trouve intéressante, mais je reste très vigilante au dérapage qu'il pourrait y avoir si les gens ne respectent pas le cadre.
Cette méconnaissance de cette loi sur la fin de vie, votée en février dernier, a une influence directe sur l'opinion et notamment concernant la question de l'euthanasie.
Pour ceux qui acceptent les soins palliatifs, je vois bien que le rapport à leur question sur l'euthanasie change complètement et ça fluctue et le malade est ambivalent. Et autant on peut être dans un discours « j'aimerais qu'en France il y ait plus d'euthanasie faite », mais quand les gens sont confrontés eux-mêmes à cette question pour eux-mêmes ou pour d'ailleurs un de leurs proches, ce ne sont plus les mêmes. Donc je pense que oui, une loi sur la sédation bien expliquée, qui ne dérape pas et qui reste vigilante à son cadre de pratique, peut tout à fait rassurer les gens et modifier certains par rapport à leur désir d'euthanasie. Oui, bien évidemment.
Vous travaillez depuis de très nombreuses années auprès de malades en fin de vie. Quelles sont les attentes de ces malades, de leurs proches? De quoi ont-ils principalement besoin en termes d'écoute, d'accompagnement?
Alors, au-delà de la question médicale qui consisterait donc à soulager la douleur, soulager les difficultés respiratoires, soulager le corps, je pense qu'il y a donc un soutien d'écoute, un soutien psychologique, mais certainement une demande par rapport au sens de ceux qui sont en train de vivre. En soins palliatifs, nous interrogeons le besoin spirituel des malades. Et ça, en France, on ne sait pas très bien le faire. Les pays étrangers savent beaucoup mieux le faire. La spiritualité est quelque chose qui a peur d'être parlé au nom d'une laïcité. Mais pour moi, la spiritualité est complètement inclue au cœur de la laïcité. Et nous abordons cette question normalement, largement, en soins palliatifs. Et la question que j'aime poser, moi, aux malades, c'est lorsque une épreuve est parvenue dans votre vie, où avez-vous trouvé votre énergie et comment avez-vous surmonté cette épreuve? Et j'écoute le malade et bien souvent, il y a des éléments qui ressortent de sa vie et comme ça, je peux mieux comprendre dans quel champ je peux échanger avec le malade. Et c'est là que la question au cœur de la spiritualité, lorsqu'elle est abordée, mais pas automatiquement, de la religion peut être posée, échangée. Et puis, nous faisons appel à des équipes qui sont référents des religions, des malades quand ils l'ont exprimé.